Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Nous continuons aujourd'hui notre série de discussions sur le thème de la réconciliation.
La réconciliation est un thème biblique qui apparaît surtout dans les écrits de l'apôtre Paul. En compagnie de notre invité Claude, nous chercherons à mieux comprendre l'enseignement de l'apôtre à ce sujet. Claude, bonjour.
Merci Yann, et bonjour à tous. La dernière fois, nous avons parlé de la nouvelle relation dont nous jouissons avec Dieu dès que nous sommes réconciliés avec lui. Car nous recevons son amour dans toute sa plénitude, et il nous considère désormais comme ses enfants. Il est pour nous un Père parfait.
Merci Claude. Et de quoi allons-nous discuter aujourd'hui?
Nous allons parler de la réconciliation et de l'Église. Et nous allons nous poser la question suivante. En quoi notre réconciliation avec Dieu change-t-elle notre regard sur les autres et notamment sur nos frères et sœurs? Pour commencer, écoutons un extrait de la lettre de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, au chapitre 2, les versets 13 à 19.
Par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis à lui-même, en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu, et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Car, grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père, par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu.
Merci. Claude, quel est le contexte de ces paroles?
En effet, il est essentiel de comprendre la situation que Paul dépeint ici. Il faut savoir qu'au 1er siècle, un fossé séparait le peuple juif des peuples non-juifs. Les peuples non-juifs étaient composés de Grecs, de Romains et d'autres nations encore. Les tensions et l'hostilité étaient bien présentes entre ces peuples juifs et non-juifs. On peut dire que les juifs ressentaient un certain orgueil spirituel du fait qu'ils adoraient le seul vrai Dieu et qu'ils se considéraient comme le peuple élu de Dieu. Du coup, ils pensaient être supérieurs aux autres. Ils croyaient aussi que pour demeurer purs devant Dieu, ils ne devaient pas côtoyer les non-juifs. De ce fait, ils refusaient leur hospitalité. Ils ne leur offraient pas la leur non plus. Tout simplement, ils les rejetaient.
Oui, je comprends. Des barrières empêchaient la bonne entente entre juifs et non-juifs.
Mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ a tout fait basculer. Ce message de pardon et de paix avec Dieu est pour tous les peuples de la terre. Donc, dans la ville d'Éphèse, comme ailleurs, les juifs et les non-juifs se sont réconciliés avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Cependant, le croyant n'est pas appelé à vivre sa foi seul. Il n'est pas appelé non plus à vivre sa foi uniquement avec ses semblables. Non, Jésus nous appelle à former un seul corps, une seule famille, autrement dit, une seule Église. Les croyants issus de peuples différents sont appelés à former un seul et nouveau peuple et à vivre ensemble dans la paix dans leur Église locale.
Donc, dans le cas de la ville d'Éphèse, les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine non-juive étaient appelés à vivre leur foi ensemble dans la même Église.
C'est exact, Yann. Cela devait être difficile et soulever de nombreuses questions. Mais Paul invite tous les chrétiens à travailler dans ce sens et il les encourage ainsi « Puisque vous êtes tous réconciliés avec Dieu et que vous vivez en paix avec lui, maintenant réconciliez-vous avec vos frères et sœurs issus d'autres peuples pour vivre au sein de l'Église en paix avec eux. » Chacun de ces juifs et non-juifs à Éphèse devait apprendre à balayer leurs anciens préjugés et animosités. Ils devaient surmonter leurs anciennes blessures pour pardonner et accepter l'autre. Ils devaient aussi changer de comportement. Par exemple, ils devaient abandonner leurs anciennes règles sur l'hospitalité et accepter de s'attabler avec des personnes d'origine différente. Désormais, ils devaient entretenir de bonnes relations paisibles avec ceux à qui ils auraient auparavant refusé de parler.
Merci de nous avoir si bien expliqué la situation à Éphèse. Quelle est la pertinence de ces paroles de l'apôtre Paul aujourd'hui ?
Eh bien, la leçon est la même. Toute personne qui est réconciliée avec Dieu doit chercher à vivre en paix avec ses frères et sœurs dans l'Église, quelle que soit leur origine. Des préjugés et des barrières empêchant les bonnes relations à cause d'animosité et de tensions tribales peuvent exister. Toutefois, dans l'Église, les personnes de toute race, de toute tribu, de toute langue doivent apprendre à vivre ensemble, dans la paix et à entretenir de bonnes relations. Elles doivent apprendre à accueillir et à accepter les croyants qui sont différents. Mais l'amour ne doit pas se voir uniquement entre ceux d'origine tribale différente, mais aussi entre jeunes et moins jeunes, entre riches et pauvres, entre lettrés et illettrés. Tous doivent apprendre à s'entendre et à s'aimer mutuellement.
Mais ce n'est pas forcément toujours facile.
C'est vrai, Yann. Mais comment ne pas aimer une personne que Dieu aime ? Nous devons apprendre à pardonner, tout comme Jésus nous a pardonné. Nous devons apprendre à regarder les autres à travers le regard de Jésus, et non à travers le regard des préjugés que l'histoire colporte. Et il nous faut parfois changer de conduite ou renoncer à des coutumes ou des traditions afin de favoriser de bonnes relations avec des personnes différentes.
Merci Claude. Comment voulez-vous conclure cette discussion ?
La prochaine fois, nous parlerons du fait que l'apôtre Paul était un ambassadeur chargé d'apporter un message de paix et de réconciliation aux nations. Cette mission est, de nos jours, la responsabilité de l'Église. Cependant, comment l'Église peut-elle annoncer un message de paix et de réconciliation au monde si elle n'est pas déjà un modèle de paix et de réconciliation? Si au sein d'une Église, des personnes ne s'entendent pas, si des conflits et des tensions existent, ces problèmes doivent être d'abord résolus et la paix doit être restaurée. Car comment les gens croiront-ils au message de la réconciliation si nous-mêmes nous ne le pratiquons pas ?
Merci Claude. Maintenant, le moment est venu de commencer notre courte méditation biblique. Nous revenons sur la première lettre de l'apôtre Jean et Sandra va nous lire les versets 16 à 18 du chapitre 5. Et ensuite, Didier nous fera part de ses réflexions.
Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère, et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Toute désobéissance à la loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut-il rien contre lui.
Merci et bonjour à tous. Il existe un péché qui mène à la mort. Nous arrivons aujourd'hui à un texte difficile à interpréter et qui peut troubler certains. Nous pouvons avoir peur de commettre ce péché qui mène à la mort ou peur de l'avoir déjà commis et donc qu'il n'y ait plus l'ombre d'un espoir pour nous. Il faut réfléchir à ce verset à la lumière de ce que Jean a déjà écrit. Nous savons qu'il a écrit à des chrétiens troublés par de faux enseignants qui ont divisé l'Église. Nous avons appris que ces faux enseignants ne reconnaissaient pas que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. De plus, ces faux enseignants ne se reconnaissaient pas pécheurs, ou du moins ne pensaient pas que leur péché posait problème. Ils estimaient qu'ils n'avaient pas besoin du pardon de Dieu, et du coup, ils ne voyaient pas, dans le sacrifice de Jésus-Christ, le seul moyen d'obtenir le pardon. Convaincus de ces vérités, et le cœur endurci et orgueilleux, ces personnes ne cherchaient pas le pardon de Jésus-Christ. Et, de ce fait, elles demeuraient spirituellement mortes et privées de la vie éternelle qui se trouve en Christ seul. Donc, ce péché qui mène inlassablement à la mort, c'est le refus obstiné de reconnaître que Jésus-Christ est le Sauveur. Le péché qui mène à la mort, c'est l'absence de toute repentance d'un cœur qui persiste à répandre des mensonges au sujet de Jésus-Christ. Ces attitudes sont autant de preuves que la personne n'est pas, selon Jean, née de Dieu. Et si une personne n'est pas née de nouveau, elle n'a pas de vie spirituelle, elle n'a pas l'espérance de la vie éternelle, elle est morte spirituellement, et ce sera son destin éternel. Toute personne qui refuse Christ se condamne elle-même à mort. Elle se prive de la véritable vie. Cependant, l'enseignement de Jean contient une affirmation rassurante, qui est celle-ci. Toute personne qui met son espérance en Jésus-Christ et qui, d'un cœur repenti, lui confesse ses fautes, voire ses crimes, ne commet pas de péché impardonnable. Bien sûr, il ne s'agit pas là d'encourager le péché, loin de là. Toutefois, l'espoir du pardon existe même pour toute personne qui commet ou aurait commis des fautes très graves. L'apôtre Jean déclare au chapitre 2 de sa lettre, au verset 1 et 2, « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Le chemin qui mène à la vie est celui de la foi en Jésus-Christ et de la repentance. Le chemin qui mène à la mort est celui de l'incrédulité et de l'orgueil spirituel et moral. »
Merci Didier pour ces paroles qui apportent un réconfort, mais qui représentent aussi un avertissement.
Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour poursuivre nos deux séries. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.